Paris, onde os termômetros
marcam 21°C.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, le premier de 2020. Alors, bonne année à tous.
Feliz 2020.
Feliz año.
Happy New Year.
Feliz ano novo.
Anne-Marie Bissiada, la rédaction en anglais. Commençons par l'assassinat d'un général iranien par les États-Unis et cette tension américano-iranienne, même si Téhéran et Washington semblent pour l'instant avoir choisi la désescalade. L'Iran a donc vengé la mort de Qassem Soleimani en attaquant deux bases militaires américaines en Irak. Est-ce que ça a été pris comme une provocation par les Américains?
On a tous pensé que cela allait vraiment augmenter le cycle de vengeance entre l'Iran et les États-Unis, mais la réalité a été vraiment loin des rédactions habituelles de président Trump. Notre correspondant Philip Crowther à Washington nous a expliqué la situation le jour après les attaques.
Well, here's what we have so far. Rather a surprising tweet from the president last night, just after those rocket attacks.
Alors, il explique que quelques heures après les attaques, la seule chose qu'on a entendue de la part de Trump était dans une tweet où il disait tout va bien. On peut interpréter cette réaction comme une forme d'apaisement. Et finalement, Trump a parlé pendant une conférence de presse vers la fin de la journée de le mercredi. Et il a dit que personne n'avait été tué pendant les attaques.
Diriez-vous que la tension entre l'Iran et les États-Unis est un peu retombée?
Pour le moment, on peut assumer ça, mais la réalité est encore différente. N'oubliez pas que le même jour des attaques sur ces bases américaines, le vol d'Ukraine qui venait de décoller de Téhéran s'est écrasé en tuant tous les passagers, dont la plupart étaient des Iraniens et des Canadiens. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré jeudi soir qu'il croyait que cet avion avait été abattu par un missile iranien, mais par accident. Et les Américains ont aussi déclaré la même chose juste avant Trudeau. Alors, on ne sait pas si cela peut encore intensifier la situation. Mais pour minimiser encore une réaction unilatérale de Trump, ce qui était le cas pour tuer Soleimani, le Congrès américain, dirigé par Nancy Pelosi, a voté le jeudi une résolution qui limite le pouvoir militaire de Trump contre l'Iran. Elle explique ici pourquoi elle voulait avoir cette résolution.
It's stunning. And the president to say, oh, I inform you by reading my tweets.
No, alors, quelle est son argumentation?
A dit, on doit éviter la guerre. Et l'attitude du gouvernement est étonnante. Et pour le président qui dit, je vous informe en vous écrivant des tweets, cela n'est pas la relation que les pères fondateurs ont envisagée en créant la Constitution américaine.
Et à la réponse de Donald Trump après sa vote?
Mais la seule réponse de Trump était dans un tweet. Et il se disait d'accord avec l'avis d'un autre Twitter qui disait que cette résolution n'est pas constitutionnelle.
Miguel Martins de la rédaction Lusophone, l'impact de la mort de ce général, notamment ses conséquences, ne seraient pas encore toutes connues. La situation évolue quand même de jour en jour. C'est du moins l'avis d'un expert de sécurité que vous avez pu entendre à la rédaction en portugais.
C'est exact, Philippe. Il s'agit de Álvaro de Vasconcelos, l'ancien directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Écoutons-le.
Où sera o impacto no Iraque e na região desse ato que é absolutamente...
Quelle est son analyse?
Il nous faisait part du fait que l'on ignore encore la portée exacte en Irak et dans la région de cette crise. Pour lui, la décision de Donald Trump est illégale sur un plan du droit international et même une erreur politique pour le locataire de la Maison Blanche. Et ce parce qu'une bonne partie de l'opinion irakienne, lassée de la présence américaine, est désormais très critique de cette attaque des États-Unis. Un mécontentement que l'Iran a su capitaliser, bien que Trump disent que pour lui, l'action militaire de son pays est maintenant terminée. Et ce, alors que l'Iran prétend avoir déjà apporté une réponse militaire suffisante. Téhéran veut en effet évincer les Américains de l'Irak, mais si possible également de la Syrie, et diminuer de façon considérable la présence de Washington dans le Golfe en général.
Alors pendant ce temps-là, la machine de propagande iranienne tourne à plein régime, et ce avec une rhétorique qui remonte un petit peu, qui date un peu, Miguel.
Tout à fait, Philippe. Ivo Sobral, enseignant à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, commençait par nous dire que cette rhétorique anti-américaine, anti-israélienne de Téhéran a été la même depuis 40 ans. On l'écoute.
L'Iran a basiquement dit exactement le même nos últimos 40 ans.
Il en convient cependant que l'on observe un changement important dans ce contexte de bras de fer entre Téhéran et Washington. Cela porte sur le fait que les Américains, pour la première fois, décident de faire comme font les Israéliens. Juste. justement, c'est-à-dire adopter une attitude militaire stratégique très semblable à de Tel Aviv depuis au moins 2 décennies, à savoir l'élimination directe de tout leader perçu comme étant problématique. C'est arrivé maintes fois pour ce qui touchait à des leaders palestiniens. Les États-Unis ont décidé d'en faire de même au Moyen-Orient. Et ce, alors que les Iraniens partent sur un retrait total de l'accord sur le nucléaire et la reprise immédiate et au plus fort des travaux d'enrichissement d'uranium. Ce serait donc inévitable pour les années à venir que l'on doive avoir affaire à un Iran porteur de l'arme nucléaire après cette crise de tension dans le Golfe, nous dit-il.
Lucien Mouzel, de la rédaction brésilienne. Le Brésil et l'Iran, ce sont deux pays très éloignés, hein, géographiquement, plusieurs milliers de kilomètres, mais qui ont toujours su garder des relations cordiales, même si l'influence américaine est très forte en Amérique latine.
Tout à fait, malgré leurs différences culturelles, les rebondissements politiques dans un côté et dans l'autre, les deux pays ont toujours été assez proches. L'Iran est le premier partenaire commercial du Brésil au Moyen-Orient, en dépit des sanctions internationales. Et historiquement, la diplomatie brésilienne a toujours été la plus neutre possible, en évitant au maximum de se mêler aux affaires des autres pays. Mais maintenant, nous vivons un tournant important dans cette tradition. Le gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro met son alliance avec les États-Unis au-dessus de tout. Nous avons vu donc Brasilia accuser M. Soleimani de terrorisme et de prendre ses distances par rapport à l'Iran. Un choix fortement regretté par les experts et notamment les exportateurs, comme nous explique le consultant Velbert Barral, qui nous avons interviewé à ce propos.
Primeiro que o Brasil não tem interesse imediato, interesse político imediato naquela região.
Alors, quelle est l'analyse de Velbert Barral?
Il nous rappelle d'ailleurs que le Brésil n'a aucun intérêt géopolitique dans cette région, donc ne devrait pas se mêler, être plus pragmatique afin de minimiser d'éventuelles conséquences d'un positionnement aussi affirmé. Et ensuite, tous les voisins de l'Iran sont aussi des clients du Brésil, qui est le premier producteur mondial de viande halal. Donc, choisir un côté dans ce conflit n'est pas un décision très stratégique.
Quelle a été la réaction de l'Iran?
Ça, c'est une première aussi. L'Iran a convoqué l'ambassadeur brésilien à Téhéran pour des explications, ce qui, dans le langage diplomatique, veut dire que le pays hôte n'est pas très content. Et ensuite, le diplomate brésilien a annulé une réunion prévue de longue date au ministère de la Culture iranienne. Et après, Bolsonaro s'est lâché, comme d'habitude, sur les réseaux. Il a dit un peu n'importe quoi. Bref, rien ne va plus, là.
Maintenant, avec vous, Asbel Lopez, le regard de la presse hispanophone sur cette crise entre les États-Unis et l'Iran.
En effet, Trump a fait taire les tambours de la guerre avec l'Iran et crié El País de Montevideo après le bombardement iranien contre une base américaine en Irak qui n'a pas fait des victimes. Trump a cherché à apaiser le conflit. Le Moyen-Orient reste cependant en alerte maximale à cause des tensions entre Washington et Téhéran, selon ce journal, dont le journal du même nom, mais en Espagne, à Madrid, El País d'Espagne. Javier Solana se montre très critique vis-à-vis du président des États-Unis. Solana est membre émérite de la Brookings Institute. Il estime que Trump n'a pas écouté le sage conseil de Napoléon, à savoir n'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur.
Quelle a été précisément, selon Solana, donc cette erreur napoléonienne de Donald Trump?
Eh bien, c'est d'avoir donné l'ordre de tuer le général Soleimani juste après des manifestations dans les rues d'Iran contre le régime, mais aussi dans les rues des pays voisins comme le Liban, où Téhéran a beaucoup d'influence. L'assassinat de Soleimani, c'est une provocation, une acte téméraire, disproportionné, sans la moindre hauteur de vue, ajouta Solana. Il prévient qu'un conflit majeur avec l'Iran mettrait en grande difficulté les efforts des États-Unis pour faire face à son concurrent global, la Chine. La théocratie iranienne sort renforcée, analyse pour sa part Clarín. Désormais, Trump a un labyrinthe devant lui au Proche-Orient, selon le journal argentin. Et en Colombie, la politologue Sandra Borda souligne un paradoxe. Dans les relations internationales, il est souvent dit que les responsables des États religieux ont tendance à prendre des décisions inspirées par les émotions et non pas par la raison, explique-t-elle dans le journal El Tiempo. En revanche, les responsables des pays occidentaux, toujours selon la croyance générale, ont tendance à être plus rationnels. Trump fait exactement l'inverse selon Borda.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crise actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI, $100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Le service anglophone a abordé, par exemple, un sujet ignoré par les autres médias. Il s'agit d'un conseil régional entre l'Arabie Saoudite et ses voisins du corridor de la mer Rouge et de la mer d'Aden, Anne-Marie Bissata.
Oui, c'est exact. Alors, l'accord a été signé ce lundi dans la capitale saoudienne. Et le but de ce conseil régional est de regrouper tous les pays de la région pour des raisons de sécurité. Par exemple, la présence du pirate ou l'existence de la contrebande. Et pour le moment, particulièrement dans la mer Rouge. Et pour le moment, le Conseil comprend l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Soudan, Djibouti, la Somalie, l'Érythrée, le Yémen et la Jordanie. À l'origine, les dirigeants du Conseil étaient l'Égypte et l'Arabie Saoudite, mais les tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie sont devenues trop aiguës. Alors les Saoudiens ont pris le contrôle et maintenant c'est eux qui dirigent ce Conseil. Ahmed Soliman, un spécialiste de la Corne de l'Afrique au Chatham House à Londres, explique l'importance du Conseil.
And what you're seeing now is the official launch of that council through a meeting of the.
Alors, en quoi ce conseil est-il important pour Ahmed Soliman?
Ce qu'on voit maintenant, c'est le début officiel du conseil après une réunion parmi les ministres des Affaires étrangères, juste avant le sommet Arabie Saoudite-Afrique que Riyad doit accueillir en février. Et le fait que de plus en plus de pays riverains de la mer Rouge sont en contact a créé cette situation et du coup, elle continue à se développer.
Anne-Marie, soyons un peu plus précises sur ces tensions régionales. Elles concernent quel pays exactement? Exactement.
Tout le monde dans ce conseil voulait que l'Éthiopie en fasse partie, tout le monde sauf l'Égypte, à cause des problèmes au sujet du barrage de la Renaissance sur Nil. Et du coup, l'Éthiopie n'est pas encore un membre. Donc l'Arabie Saoudite voulait que le Yémen soit un membre, même si la guerre civile continue entre les rebelles et les militaires soutenus par les Saoudiens. Et la présence dans ce conseil de la Somalie et l'exclusion de Somaliland est à noter, car cette situation dérive de la dispute diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et encore, Soliman explique.
Somaliland, which as you rightly say, has been supportive within the Gulf crisis of.
Alors, sur le Somaliland, là, son analyse.
Il dit que le Somaliland, qui soutenait toujours l'Arabie Saoudite et les Émiratis contre le Qatar, est bien encore intéressant, mais on peut dire que la situation est assez simple. Le Somaliland, c'est un pays à l'indépendance autodéclarée, n'est pas reconnu par la communauté internationale, alors que la Somalie est un pays reconnu. Alors, maintenant que le Conseil est créé, on verra comment ces pays vont aborder des problèmes de sécurité, vu qu'il existe encore des tensions entre ces pays.
Anne-Marie Bissada, de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. En Guinée-Bissau, le candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalao, est le nouveau président de la République. Le deuxième tour de cette élection s'est tenu le 29 décembre. Mais le perdant ne l'entend pas de cette oreille. Vous avez suivi ça de très près, Miguel Martins, de la rédaction Lusophone.
En effet, Philippe, il n'a pas encore été investi, cela dit, Umaro Sissoko Embalao. C'est certes un scénario courant en Afrique, mais là, c'est le candidat du parti au pouvoir qui conteste les résultats provisoires. Domingo Simon Espereira, candidat du PAIGC, le Parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, met en cause le verdict des urnes. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter cet ancien Premier ministre pour connaître ses raisons.
Quem participa do jogo democrático vive a vitória, mas tem que se comprometer em aceitar.
Quels sont les arguments de ce candidat, de ce parti historique de Guinée-Bissau?
DSP, comme il est normalement connu avec les initiales de son prénom et de son nom composé, rappelait que celui qui participe du jeu démocratique vise la victoire. Encore faut-il qu'il s'engage à reconnaître la défaite et surtout se tenir disponible pour saluer le vainqueur. Et ce, à condition que la vérité démocratique puisse être assurée, à savoir que le résultat correspondrait à la vérité formulée par le peuple. À travers cette formulation, le PAIGC estime avoir été bafoué dans les urnes, conteste le rôle de l'armée dans le soutien à un ancien militaire et le dispositif d'appel au vote mené par le candidat donné gagnant pendant le déroulement du scrutin.
Alors, côté perdant, de quoi accuse-t-on le président de la commission électorale d'avoir été contraint par l'armée d'ignorer la souveraineté populaire?
C'est exact, Philippe. Et le président de la commission électorale n'a pas tardé à réagir. Écoutons-le.
C'est, além de ser falso et disprovido de qualquer fundamento, À meu ver, acho que...
Quels sont ces arguments, Miguel?
Voilà, José Pedro Sambu disait qu'il s'agissait de jeter de la poudre aux yeux afin de semer la confusion. Et ici, de la part du BAIGC, le président de la commission électorale estime que ces accusations sont fausses, sans aucun fondement. José Pedro Sambu regrette le manque de fair play en estimant qu'il faut aussi savoir perdre. Il prétend que le système en place a été conçu de telle façon qu'il ne permet pas de cacher quoi que ce soit.
Voilà donc pour la situation en Guinée-Bissau, suivie de très près par la rédaction lusophone de Radio France Internationale, dont vous êtes le chef, Miguel Martins. Venons-en au regard de la rédaction brésilienne, avec au Brésil cette tentative de censure d'une émission qui vire au scandale, hein, le CMUSEL. Un juge a donc demandé à Netflix de retirer cette émission qui met en lumière un Jésus homosexuel.
Exactement, c'est l'édition spéciale de Noël du célèbre groupe d'humoristes brésiliens Porta dos Fundos, que nous allons entendre un peu.
Deus é muito bom, criou o mundo em sete dias, e tempo depois afogou as suas crias.
Lucia.
Voilà, donc pour comprendre en résumé, Jésus est séduit par le Satan qui se fait passer par un charmant homosexuel, et en plus Marie trompe Joseph avec Dieu qui est son amant dans cette émission. Bref, le scénario n'a pas du tout plu les conservateurs brésiliens. Dès la diffusion de l'émission, les artistes en question ont été la cible des critiques virulentes sur Internet. Plusieurs pétitions pour la faire supprimer du catalogue de la plateforme en ligne ont été souscrites. Et la veille de Noël, la boîte de production de Porta dos Fundos a été attaquée par un extrémiste au cocktail Molotov. Personne n'a été blessé, heureusement, malgré les dégâts. Et cette semaine, un coup de théâtre, ces juges de Rio de Janeiro a accepté une de ses demandes de retrait. Dans sa décision, le magistrat affirme, je cite, que sa diffusion est plus susceptible de causer des préjudices graves et irréparables à la société brésilienne que son retrait.
Alors, il a été crié à la censure. Hein. Apparemment, cette décision serait inconstitutionnelle.
Heureusement, tout à fait. L'affaire est remontée à la Cour suprême à la demande de Netflix. Un juge de la Cour a ouvertement parlé d'une tentative de censure incompatible avec la démocratie. La décision définitive rappelle à tous le droit constitutionnel à la liberté d'expression au Brésil. Ce qui est aussi frappant, Philippe, dans cette affaire, c'est que, si vous me permettez, hein, oui. L'émission, elle est plutôt bon enfant, assez naïve même. Elle est là pour faire vraiment rigoler, amuser. Elle n'entend pas du tout critiquer l'Église ou les chrétiens. On est donc très loin des unes à bout portant de Charlie Hebdo en France, par exemple. Alors, c'est comme si les limites à l'expression artistique au Brésil étaient soudainement devenues très, très étroites. Dans notre rédaction, nous avons interviewé un dessinateur de presse très connu au Brésil, Laerte. Écoutons-le.
Moi, mon offense à la religion. C'est une offense aux homophobes, c'est ça. Estou num país onde uma grande maioria...
Alors, que dit Laerte, c'est ça, c'est son
oui,
pseudonyme.
Exactement. Pour lui, il n'y avait pas d'offense à la religion catholique. C'est surtout l'homophobie qui a motivé cette révolte contre l'émission. Donc, nous avons là deux problèmes, hein, la liberté d'expression contre la religion et contre aussi les homosexuels. Pour Laerte, cette affaire montre à quel point c'est dur aujourd'hui de vivre et de faire de l'humour, dans un pays où la plupart des électeurs a choisi un monstre, je cite aussi, comme président.
Alors, comment est-ce que le milieu artistique, comment les intellectuels réagissent? Est-ce qu'ils sont inquiets pour la liberté d'expression au Brésil?
En fait, cette affaire a eu l'effet d'un cri d'alerte. Voilà, maintenant nous avons des attentats contre des humoristes et un juge se donne le droit de censurer leur émission sans aucune base juridique. Que viendra-t-il ensuite? C'était la polémique de la semaine au Brésil, avec plein d'éditos dans la presse, des artistes à droite et à gauche dénonçant une aberration. Espérons donc que ce soit la première et la dernière fois, Philippe.
Oui, sachant que c'est la plateforme de vidéo Netflix, donc qui est basée à l'étranger, bien évidemment.
Ouais.
Netflix est très développée au Brésil.
Ah oui, extrêmement. C'est très, très connu. Tout le monde a accès à Netflix, même enfin, dans toutes les classes au Brésil, les gens sont accros à Netflix. Ils étaient obligés même de réagir sur les réseaux rapidement pour dire qu'ils défendraient vraiment à fond le droit à la liberté d'expression. Ils n'allaient pas retirer cette émission de leur plateforme.
Merci, Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. Merci à vous tous. C'était Accent du Monde sur RFI.
Découvrez musique.rfi.fr. Retrouvez toutes les infos, la biographie, les vidéos et les émissions de RFI consacrées à Abdelmalik.
suis instrument, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument.
Sur musique.rfi.fr, vibrez en temps universel.